Matin.
Stéphane Clark, bonjour.
Bonjour.
Vous avez écrit beaucoup de livres très drôles sur les Français, que ce soit « Ailleurs in the Merde », « God save les Françaises » ou « Comment les Français ont gagné la bataille de Waterloo ». Mais vous êtes également l'auteur d'Elisabeth II ou l'humour souverain, qui était paru chez Albin Michel en 2018. On la voit comme quelqu'un d'assez austère, enfermé dans le protocole. La série « The Crown » a renforcé cette image. Hein. Mais elle était très drôle, Elisabeth II, à sa manière.
Oui, oui.
Hein.
Oui, c'est vrai. Et en fait, l'histoire de mon livre, c'est que moi, l'éditeur Albin Michel m'a demandé d'écrire un livre sur la reine avec l'idée qu'elle va bientôt mourir. Et eux ont dit, on veut un livre qui se moque de la reine et de la famille Miruel. Et j'ai dit, mais je ne pense pas que les Français aient envie de se moquer de la reine. Et derrière, la reine elle-même, elle se moque d'elle-même. C'est très anglais, ça. Et elle a un grand sens de l'humour. Donc, je préfère faire quelque chose de positif qui montre à quel point la reine a vraiment le sens très anglais du décalage entre son rôle symbolique et sa petite personne, parce que c'est une dame très petite. Et j'ai trouvé plein d'anecdotes où elle comprend ce décalage.
Pour les Français, nous, on a beaucoup glosé sur sa façon de s'habiller, hein, dans des couleurs criardes, avec des bibis hallucinants sur la tête. C'était de l'humour, à votre avis ?
Pas seulement, non, c'était sérieux aussi. Une fois, elle a dit « si je portais du beige, personne ne me verrait ». Et là, c'était un peu de l'humour parce qu'elle est très petite. Elle était très petite. Et aussi, elle a dit « I have to be seen to be believed ».
Il faut qu'on me voie pour me croire.
Oui, c'est ça. Donc, elle choisit ses couleurs qui n'existent nulle part ailleurs. On a inventé une gamme de couleurs que pour elle, pour que personne n'ait la même couleur, pour qu'elle soit toujours unique à chaque occasion. Et d'ailleurs, les Anglais ont beaucoup parié sur quelle sera la couleur de la prochaine tenue de la reine. C'est devenu quelque chose de très amusant.
Il faut dire qu'en Angleterre, on peut parier sur tout.
Oui, ça c'est vrai.
Quand elle a lu le discours du gouvernement annonçant le Brexit devant le Parlement, ça a été l'occasion d'une de ses meilleures blagues. Hein, vous le racontez dans le livre.
Oui, c'est ça. Une de ses meilleures blagues les plus subtiles. Ça veut dire que quand elle lit un discours pour ouvrir le Parlement, ce n'est absolument pas elle qui l'écrit, c'est le gouvernement qui écrit le discours. Donc, elle a été convoquée pour lire l'annonce du Brexit. Alors, on ne connaît pas les opinions publiques de la reine, mais on sent que quelqu'un comme elle, qui a vraiment le sens de l'international, a dû être contre. Donc, pour lire ce discours, elle s'est pointée au Parlement en portant un chapeau bleu avec des petites fleurs jaunes. Elle portait sur la tête
le drapeau de l'Union européenne.
Mais c'était tellement subtil, aucun commentaire, juste me voilà. Mais ce n'est pas la seule fois qu'elle a fait ça. Quand elle a été obligée de recevoir Donald Trump à Londres, on pense qu'elle n'était pas vraiment pour. Et elle l'a rencontré deux fois. Et une fois, elle a porté une broche qui avait été offerte par la famille Obama, le couple Obama. Et une autre fois, elle a porté une broche qu'elle portait lors de la mort de son père. Je veux dire, elle utilisait des petits symboles comme ça avec un brin d'humour, mais vraiment assez
pour dire
acide.
Qu'elle était triste, au fond.
Oui, c'est ça, triste de rencontrer ce type. Oui, c'est ça, mais très, très subtil.
Constitutionnellement, elle n'a pas le droit d'émettre d'opinion personnelle, hein, une règle que Charles a toujours eu du mal à respecter, lui. Mais ça ne l'empêchait pas d'exprimer un humour, au fond, qui n'appartenait qu'à elle. Par exemple, lors de la visite du président de la République française, Nicolas Sarkozy, en 2018. Oui. Là, c'est un vrai festival.
Là, c'était un peu le festival des blagues. On sent derrière une sorte d'humour vraiment taquin. Par exemple, je ne sais pas si c'était exprès, mais quand Nicolas Sarkozy a été accueilli à Londres, ils ont envoyé un carrosse avec des chevaux. Et l'un des chevaux s'appelait Azincourt et l'autre s'appelait Zut alors.
Azincourt, il faut le rappeler, défaite française aux archers anglais.
Voilà. Et après, on a fait la visite avec le président Sarkozy du château de Windsor en prenant un grand moment à admirer la salle Waterloo avec des immenses tableaux de cette bataille que Napoléon a perdue.
Avec des portraits de Wellington et Blücher.
Oui, c'est ça. Et en plus, la salle de banquet, il fallait passer par la salle de Waterloo pour y accéder. Et dernier détail, lors de ce banquet, la reine a dit au président Sarkozy que justement, tout allait être servi sur un service en porcelaine de Sèvres que la famille royale anglaise a acheté à très bas prix après la Révolution, quand la France vidait les palais royaux. Donc, en fait,
vous voulez dire que Nicolas Sarkozy mangeait dans la vaisselle de Louis XVI et de Marie-Antoinette?
Exactement, il mangeait dans, en fait, ce qui aurait dû être sa vaisselle à lui.
Cela dit, Nicolas Sarkozy, si je me souviens bien, avait écourté son séjour. Exactement. Est-ce que c'était la faute de la reine ?
Peut-être, parce que Nicolas Sarkozy a donné un discours en disant quel honneur d'être reçu au château de Windsor, mais en même temps, il a refusé sa deuxième nuit de bed and breakfast. Alors ça, vraiment, ça se faisait pas. Mais on sent que peut-être qu'il a senti un peu l'esprit taquin de la reine.
L'humour d'Elisabeth II ne s'exerçait pas seulement aux dépens de la France. Hein, et on l'a vu, il peut être très subtil. Hein. En 1970, elle est en voyage en Australie et en Nouvelle-Zélande, dont elle était la souveraine. Hein, mais deux pays qui étaient à ce moment-là tentés d'en finir avec la monarchie. Hein. Ouais. Et elle voulait prendre un man full, ses conseillers essayaient de l'en dissuader. C'est là qu'elle leur a dit « Il faut me voir pour me croire ». C'est une phrase que je trouve formidable.
Oui, oui. Elle était consciente que elle, c'était une petite dame qui serait invisible dans une foule, mais qui représentait toute sa nation. Et non seulement sa famille, mais toute la Grande-Bretagne.
Et l'Empire.
Et à une époque, l'Empire, et après le Commonwealth. Donc, il fallait... Elle assumait ce rôle qu'elle trouvait... Quelque part, elle aurait pu être existentialiste française. Quelque part, elle voyait un peu l'absurdité de cette situation. Et ça lui donnait ce sens de l'humour un peu contre elle-même. Elle ne fait aucune blague contre la monarchie, mais elle faisait des blagues contre elle-même.
Ben, une blague contre elle-même formidable. Ben, on va laisser passer une petite parenthèse et vous allez nous la raconter, Stéphane. C'est à Balmoral quand elle reçoit le prince héritier d'Arabie Saoudite.
Ah oui, oui.
9h, 10h, c'est arrivé cette semaine.
Avec Frédéric Taddeï sur Europe 1.
Nous sommes ce matin avec Stéphane Clark, l'auteur d'Elisabeth II ou l'humour souverain. On rend hommage à Elisabeth II, mais sous l'angle de l'humour. Ce serait dommage de ne pas refeuilleter ces pages à cette occasion. En 1998, je l'annonçais il y a un instant, elle reçoit à Balmoral le prince héritier d'Arabie Saoudite, un pays où les femmes n'ont pas le droit de conduire une voiture. Et qu'est-ce qu'elle fait ?
Oui, effectivement. La reine adore... visiter les terres autour de Balmoral, son château en Écosse.
Où elle est décédée d'ailleurs.
Oui, ces terres sont énormes. Et elle adorait visiter en une vieille Land Rover qu'elle conduisait elle-même. Et donc, elle invite à ce moment-là tout cet entourage saoudien à faire la visite avec elle. Et elle prend le volant. Donc ça, déjà, c'est un peu un geste provoque. Une femme qui prend le volant devant ces gens. Et elle... fait une visite de ces terres plus vite que jamais, avec quelques hommes qui étaient dans la voiture qui suppliaient à travers un traducteur qu'elle ralentisse, mais elle n'a jamais ralenti. Elle leur a vraiment donné la visite un peu terrifiante de ces terres, en leur montrant que oui, une femme peut conduire vite. Et encore une fois, elle n'a pas fait de commentaires. Elle n'a pas dit « Ah, chez vous, vous devriez peut-être donner le permis de conduire aux femmes ». Elle a juste fait son petit geste, sa petite blague, mais avec un fond sérieux quand même. Mais c'était ça la subtilité de son humour, en fait.
Mais cela dit, Elisabeth II avait-elle le permis de conduire ?
C'est pas sûr. Non, je ne pense pas, parce qu'elle n'avait aucun papier d'identité.
Donc, vous voyez.
Oui, c'est ça.
Elle n'avait pas le permis.
Une fois, elle était en visite d'État aux États-Unis, et pendant quelques moments, une douanière lui a refusé l'entrée aux États-Unis, parce que cette douanière exigeait le passeport. Et on lui a dit, mais elle n'a pas de passeport.
C'est vrai, elle n'avait pas de passeport.
Il fallait téléphoner à Washington pour qu'elle passe.
Et elle a fini quand même par passer la frontière, comme elle a passé la frontière d'à peu près tous les États du monde, puisqu'elle a eu le temps de tous les visiter. Elle avait une passion pour les chevaux. Juste avant son couronnement, on lui avait demandé si elle était nerveuse. Elle avait d'ailleurs répondu, oui, la course commence à 4 heures.
Oui, c'est ça. On voit beaucoup de photos de la reine et de films de la reine souriante et rigolante. Et vraiment, elle était au plus souriante quand un de ses chevaux gagnait une course. Mais elle n'avait pas le droit de parier. Donc, tout ce qu'elle faisait, c'était des petits paris dans le groupe qui observait. Chacun mettait une livre dans la cagnotte. Et donc, elle était super contente parfois de gagner 11 livres.
Mais elle n'avait pas le droit de parier comme tout le monde. Hein.
Oui, c'est ça. Non. La seule Anglaise qui n'avait pas le droit de parier.
C'est ça, d'être la reine. Ouais. Alors, il y a un truc qui est très subtil que vous racontez dans votre livre, Stéphane. Elle avait un étalon baptisé Lord Eldin. Elle l'a accouplé avec une jument nommée Amnesia. Et elle a appelé le poulain Lost Marbles. Alors ça, il faut que vous nous traduisiez.
C'est très, très commun. Lost Marbles, ça veut dire fou. He's lost his marbles. Ça veut dire c'est fou. Mais the Elgin Marbles, c'est très célèbre. Au British Museum à Londres, il y a ces fresques grecques en marbre qu'un certain Lord Elgin a sorti de la Grèce. La Grèce demande depuis le retour de ces marbres, qu'ils n'ont pas eu. Donc,
il les a volés au Parthénon, hein, carrément.
Exactement, oui. Donc, Lost Marbles, le marbre perdu, ou bien la folie. C'était, encore une fois, c'est une blague assez subtile, très difficile à expliquer.
Oui, Lord Elgin, en fait, a volé des marbres en Grèce, au Parthénon, oui. Mais la Grande-Bretagne préfère l'oublier, dont oui. le nom de la jument, Amnesia.
Voilà.
Donc, les marbres sont considérés comme perdus. Lost Marbles, le nom du poulain qui est né.
Oui, mais en même temps, he's lost his marbles, ça veut dire qu'il est devenu fou.
Oui,
c'est il y a encore une couche.
Oui, encore une couche. Et Charles, alors, Charles III, maintenant, nous, oui. On l'appelle depuis si longtemps le prince Charles, on va avoir du mal à s'y faire, mais est-ce qu'il est drôle ? Il lui succède à l'âge de 73 ans, c'est un record, hein, qu'aucun souverain britannique n'était monté sur le trône à un âge aussi avancé. Est-ce que ça a eu le temps de lui polir son humour ?
Il va peut-être être un peu moins subtil que la reine, je pense, et il n'aura peut-être pas cet esprit de auto-moquerie que la reine avait, mais on sait très bien, par exemple, que depuis toujours, le prince Charles, le roi Charles maintenant, annonce qu'il adore un groupe d'humoristes des années 50, The Goons, que maintenant c'est très très daté comme humour, mais il a toujours affiché son adoration pour l'humour, mais apparemment il est assez rigolo et très charmant, mais il lui manquera cette espèce de délicieuse habitude qu'avait la reine de se moquer d'elle-même, que tout le monde adorait ça en elle.
Et il l'avait fait une fois, je me souviens, d'un dîner officiel, je ne sais plus dans quel pays, où il avait été obligé de manger d'un animal que l'on ne mange pas normalement sous nos latitudes.
Oui.
Et on lui avait demandé s'il avait apprécié, et il avait répondu « What I did for England
oui. ».
Qu'est-ce que je n'ai pas pu faire pour l'Angleterre ?
Oui, oui, c'est ça. Je ne connaissais pas cette histoire, oui, oui. Mais oui, oui, il est spirituel. Mais vous savez, vous dites, en France, on parle de l'humour anglais, mais nous, on l'appelle juste l'humour, parce qu'en fait, tout le monde essaie de le faire.
Oui, et puis c'est vous qui l'avez inventé.
Oui, l'humour anglais, oui. Non, mais oui, genre l'auto-moquerie, oui, c'est en fait, c'est une grande habitude chez nous.
Elisabeth II ou l'humour souverain, c'était paru chez Albin Michel en 2018. C'est signé Stephen Clark. Merci, Stephen, d'être venu rendre hommage à Elisabeth II sous l'angle de l'humour. On se retrouve dans un instant avec Clémence Fourton. On va parler encore du Royaume-Uni et de tout ce qui a changé au Royaume-Uni depuis ces dernières années et qu'est-ce qui risque de changer encore.